L'affaire Sophie Le Tan, la mort en Alsace. Quelques années plus tard, Jean-Marc quitte l'Alsace pour la Corse. L'une de ses plus grandes réussites est celle de son concours administratif des instituts régionaux d'administration, les IRA, qu'on surnomme la petite sœur de l'ENA. À Bastia, Jean-Marc Reiser fait la connaissance d'une jeune fille, Virginie. En à peine un mois, elle se rend compte de la dangerosité de cet homme et le quitte précipitamment. Jean-Marc quitte la Corse pour retourner à Strasbourg. Jusque-là, son parcours professionnel est dicté par ses échecs sentimentaux. Quelques semaines après son retour, il parvient à conquérir le cœur d'une certaine Joëlle. Sa première relation sérieuse avec laquelle il a une petite fille. Entendu plusieurs fois dans le cadre d'une affaire de viol et pour laquelle il avait trouvé un alibi, Joëlle déclarera plus tard vivre sous l'emprise de son compagnon. Joëlle décrit Jean-Marc comme un homme colérique et surtout très secret. Il s'isole souvent, s'évade des nuits entières sans jamais ne rien dévoiler de ses activités. Son passeport témoigne d'un voyage de plusieurs semaines en Thaïlande. Entre 1995 et 1997, il agresse sexuellement plusieurs femmes en France. Deux viols sont avérés, celui d'une autostoppeuse allemande dans les Landes, puis celui d'une ancienne maîtresse dans le Doubs. Cette dernière avait été préalablement droguée. À l'époque de ces faits, Jean-Marc est toujours en couple avec Joëlle. Ces deux affaires sont révélées à la suite d'un contrôle routier aléatoire, le 18 juin 1997, à Villers-le-Lac. Avec sa voiture, une Peugeot 309, Reiser tente de rejoindre la Suisse. Mais à quelques kilomètres de la frontière, les douaniers procèdent à une fouille du véhicule et découvrent dans son coffre plusieurs armes, dont un fusil à pompe, un couteau à cran d'arrêt de 34 cm, une baïonnette, un scalpel, des munitions, une cagoule, des pieds de biche, des cordelettes et des photographies à caractère sexuel prises par ses soins. Les photos saisies dans sa voiture montrent des femmes nues, endormies, subissant divers sévices. Il déclare aux douaniers revenir de Belgique. Il avait passé quelques jours à faire du camping sauvage. Il avait dormi dans sa voiture, les armes servant à le protéger. Réinterrogé par des enquêteurs sur les découvertes intrigantes réalisées par la douane, Reiser tente de cacher un crime avec un autre. Il dit avoir voulu commettre un braquage pour changer de vie. Il confesse également un amour malsain pour les armes, une fascination qu'il attribue à son père. Ce dernier l'aurait emmené dès son plus jeune âge au stand de tir. En ce qui concerne les photos compromettantes, il parle de simple mise en scène. Les femmes auraient été consentantes, selon ses propos. L'arrestation de Jean-Marc Reiser conduit à une enquête sur l'identité de ces femmes. L'une d'entre elles s'appelle Gabrielle. Dans un témoignage, elle évoque un week-end en Belgique durant lequel elle aurait eu un inquiétant pressentiment. Elle n'a que des souvenirs vagues de sa rencontre avec Jean-Marc. L'un d'eux concerne une longue balade près de la forêt de Wissembourg. Un autre souvenir est celui de son réveil dans une chambre et l'odeur encore flottante de l'éther. Elle avait voulu déposer plainte pour viol, mais Joëlle, la compagne de Jean-Marc, avait tout fait pour l'en empêcher. Reiser est envoyé en prison. Un premier procès se tient en mai 2001. À plusieurs reprises, il essaye de déstabiliser les deux femmes venues témoigner à son encontre. Son attitude désinvolte déplaît à la cour. Le jury le déclare coupable. Il est condamné à 15 ans de prison pour ces deux viols et acquitté pour la disparition de Françoise Oman, la représentante en aspirateur qui faisait du porte-à-porte et qui a disparu dans le quartier de Reiser. Finalement, il ne fera que 13 ans de prison. Lorsqu'il sort en 2010, Jean-Marc a 50 ans. Son casier judiciaire ne lui permet pas de retrouver un travail dans la fonction publique. Son ancienne compagne, Joëlle, le quitte et obtient la garde exclusive de leur fille. Le violeur en série vivote de petites allocations. Deux ans plus tard, il est de nouveau arrêté par la police après avoir essayé de cambrioler une clinique vétérinaire. Il repart en prison pour 2 ans. En 2015, Jean-Marc Reiser s'inscrit à l'université. Il veut entamer des études en archéologie. Un bien drôle de parcours. Les enquêteurs de l'affaire Sophie Le Tan comprennent que les cibles de Jean-Marc sont choisies au gré de ses rencontres. Jean-Marc avait sûrement croisé le chemin de Sophie à plusieurs reprises à l'université. Pourtant, les étudiantes se méfient de lui. Il se montre très insistant avec certaines d'entre elles. Le mystère plane autour de ce personnage. Il ne parle jamais de lui, traîne souvent sur un ordinateur de la bibliothèque. Un ordinateur portable dont l'écran est dissimulé au regard des autres. Quand il n'est pas à l'université, Jean-Marc fait des allers-retours entre son studio et la forêt. En septembre 2018, Jean-Marc Reiser est toujours inscrit dans le registre des étudiants. Le 5 octobre, près d'un mois après la disparition de Sophie, les résultats de l'analyse ADN du sang retrouvé dans l'appartement de Reiser sont révélés. Les enquêteurs ont la lourde tâche d'annoncer la mauvaise nouvelle à la famille Le Tan. Il s'agit bien du sang de Sophie. Il y a très peu de chances pour que l'on retrouve la jeune fille en vie. Une nouvelle question se pose. Où est le corps de Sophie? Comme à son habitude, Jean-Marc ne dit rien, ou pas grand-chose. Pour expliquer la présence du sang de l'étudiante chez lui, il trouve une histoire inventée de toutes pièces. Il prétend avoir connu Sophie à l'université, où ils pratiquaient du sport ensemble. Une information invérifiable pour les enquêteurs. Lui, qui au début niait avoir posté des annonces sur Le Bon Coin, change de version. Il dit avoir voulu sous-louer discrètement son appartement pour un long voyage fin 2018. Selon sa nouvelle version des faits, le 7 septembre 2018, il rencontre Sophie dans sa rue. Elle a la main en sang. L'étudiante lui demande si elle peut monter chez lui pour panser sa plaie. Il accepte, lui donne du désinfectant et un pansement. Puis elle repart. C'est la dernière fois que Jean-Marc Reiser l'aperçoit, jusqu'à ce qu'il tombe sur l'avis de recherche. L'enquêtrice lui demande de se justifier sur un tel silence. Il dit qu'il n'a pas voulu en parler. Il connaît très bien la justice. Après avoir été accusé à tort dans une autre affaire à Bordeaux, il dit être devenu paranoïaque. Cependant, deux voisins de l'immeuble du 1 rue Perle à Schiltigheim, où réside Jean-Marc Reiser, contredisent cette version. Ils affirment avoir vu Sophie entrer seule, sans aucune blessure à la main. Les voisins donnent des détails plus précis sur l'étudiante, qui laissent penser qu'elle se serait rendue dans l'immeuble pour une visite. Ils soulignent son élégance vestimentaire. Les jours qui ont suivi, ces mêmes voisins ont noté une forte odeur désagréable et persistante dans le couloir, comme celle d'un animal mort. L'agent d'entretien note quant à lui la présence d'asticots dans le local poubelle. Les enquêteurs commencent à supposer de sinistres conclusions. Pour eux, Jean-Marc s'est débarrassé du corps de la manière la plus horrible qui soit. Des suspicions qui vont être confirmées en janvier 2019. De nouvelles investigations mènent à la découverte d'une scie à métaux dans la cave de Jean-Marc Reiser. Il retrouve sur cet outil l'ADN de Sophie Le Tan. Le corps a vraisemblablement été découpé. Comme le confirmera la malheureuse découverte faite par un retraité le 23 octobre 2019. Ce jour-là, M. Gomez décide de se rendre en forêt de Rosheim, dans le Bas-Rhin, en compagnie de sa fille. Cette dernière est gendarme. Elle est en congé. Arrivés sur place, ils stationnent leur véhicule et entreprennent à pied le chemin forestier en pierre de Saint-Nabord. Ironie du sort, un an auparavant, ils avaient rebroussé chemin car il n'y avait pas de champignons. Le cas échéant, ils auraient pu découvrir le corps plus tôt, puisqu'à cette date, Sophie Le Tan a disparu depuis un an et un mois. L'attention de M. Gomez est portée sur une forme particulière. Il découvre un crâne humain dépourvu de sa mâchoire inférieure au pied d'un talus. Sa fille, gendarme, alerte ses collègues de brigade. Elle sécurise également la zone. Pendant ce temps, son père a la conviction que le reste du corps se trouve ailleurs, non loin de là. Après avoir repris le volant et parcouru un kilomètre de plus, M. Gomez se dirige vers le rucher, également connu sous le nom de « Les Abeilles », une cabane connue par les randonneurs du coin. À proximité de la cabane, il aperçoit un petit tumulus, un amas de grès recouvert d'épines de pin sèches tombées des arbres environnants. Il ne s'est pas formé tout seul. En dessous se trouvent un humérus et un thorax. Sophie Le Tan vient d'être retrouvée, plus d'un an après sa disparition. Jean-Marc Reiser, toujours incarcéré, refuse d'admettre sa culpabilité. L'enquête piétine. Enfin, le 22 décembre 2020, dans une lettre destinée à la juge d'instruction, Reiser annonce qu'il a d'importantes révélations à lui faire. Le rendez-vous est pris et fixé au 19 janvier 2021, presque un mois plus tard. Ce jour-là, en attendant de pouvoir entrer dans le bureau de la juge d'instruction, il confie à son avocat, maître Pierre Giuriato, vouloir annuler l'entretien. Il dit que finalement, il n'y est pour rien. Son avocat s'énerve et le somme de se mettre en face de ses responsabilités. Jean-Marc Reiser consent à avouer. Il a bien tué et démembré Sophie Le Tan. Un mois plus tard, une reconstitution du crime est organisée dans l'appartement du faux loueur. L'occasion pour tout le monde de connaître enfin la vérité et le déroulé exact des faits. Le vendredi 7 septembre 2018, Sophie Le Tan attend dans la rue, à proximité de l'arrêt de bus. Jean-Marc la rejoint. Ils échangent brièvement quelques mots avant d'entrer dans l'immeuble. Tous deux prennent ensuite l'ascenseur pour atteindre le 6e étage et pénétrer dans le studio. L'étudiante prend le temps de visiter les lieux. Il ne fait qu'une quarantaine de mètres carrés, composés d'une pièce à vivre, d'une cuisine, d'une petite salle de bain et d'un balcon. Avant de partir, Sophie Le Tan demande à M. Reiser si elle peut emprunter les toilettes. Sans crier gare, l'homme essaye de l'embrasser, puis de la serrer contre lui. Sophie le rejette, il la gifle. La situation dégénère. Sophie Le Tan commence à le menacer, à crier. Jean-Marc entre dans une rage meurtrière. Il la frappe très violemment. Sophie perd connaissance et meurt dans des circonstances encore non définies, dans la salle de bain. Les causes de son décès ne peuvent pas être déterminées à l'autopsie. Après avoir constaté sa mort, Reiser dit être resté prostré auprès du corps un long moment, avant de se résigner à le faire sortir de la salle de bain. Pour cela, il décide de le démembrer afin d'en faciliter le transport, selon ses mots. Ensuite, Jean-Marc Reiser entrepose le corps de la victime dans la cave, avant de le dissimuler en forêt. L'état du cadavre ne permet pas d'affirmer que Sophie a été abusée sexuellement. Jean-Marc ne donne aucune information à ce sujet. La juge d'instruction et l'enquêtrice principale pensent que oui. L'homme est très attiré par les jeunes femmes, c'est un prédateur sexuel confirmé. En attendant son procès, Jean-Marc est soumis à un test de personnalité dans l'espoir de déterminer s'il aurait pu préméditer son crime, malgré ses constantes dénégations. Depuis le début, Reiser insiste sur l'absence de préparation. Très intelligent, il sait ce que pourrait signifier une requalification de l'assassinat en coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La psychologue clinicienne Carole Rabolini décrit un individu manipulateur, soulignant que Reiser cherche à engourdir la pensée de son interlocuteur en décidant seul de la direction des échanges. Elle note son habileté à serrer la main de manière insistante, son sourire, autant de signes qui mettent en évidence un désir de contrôle. L'enquêtrice de personnalité Lisa Lentz rapporte des séances difficiles avec Reiser, caractérisées par son refus de répondre à des questions jugées indiscrètes. En parlant de son enfance, Reiser évoque des violences verbales, des baffes de la part de son père, si nombreuses qu'il est impossible de pouvoir les compter, selon ses termes. En parlant de sa compagne, il admet avoir donné de temps en temps quelques gifles, tout en minimisant ses gestes. Le procès de Jean-Marc Reiser s'ouvre le 27 juin 2022, devant les assises du Bas-Rhin. Au premier jour de procès, l'accusé est invité à s'expliquer sur les circonstances du décès de Sophie. Reiser affirme que la mort de la jeune femme aurait eu lieu lorsque sa tête aurait heurté le chauffe-eau, une version jugée peu vraisemblable par les médecins légistes. L'avocat de la famille Le Tan met en évidence le calvaire que la jeune fille aurait enduré entre les mains de ce prédateur dépourvu d'affect. Son parcours judiciaire est rappelé en détail lors des audiences, afin que les jurés se fassent une opinion plus complète du personnage. Ce parcours criminel témoigne de la nature récidiviste de l'accusé. Le médecin légiste réfute le scénario d'une mort instantanée. Si la tête de Sophie avait bien heurté le chauffe-eau, elle aurait été plongée dans un long coma, tout au plus. Reiser tente de justifier sa version des faits. Il utilise des exemples farfelus, comme celui de boxeurs pouvant mourir sur le coup. Sur un ton très naturel, il met en avant sa forte carrure, 97 kg pour 1m87. Sophie Le Tan ne mesurait qu'1m55, elle était très fine. Jean-Marc Reiser réaffirme qu'il ne voulait pas la tuer. Tout au plus, consent-il à parler d'un coup violent mal placé. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a cherché à dissimuler le corps de sa victime, il répond qu'il avait pensé appeler la police pendant un temps, mais qu'au vu de son parcours judiciaire, il avait peur qu'on remette en doute sa version des faits. Il donne un peu plus de précision sur la suite des événements. Il dit avoir attendu pendant 3 heures avant de se décider à descendre dans la cave pour récupérer une valise et essayer de mettre le corps dedans. Sur un ton un tantinet provocateur, il ajoute que le corps ne pouvait pas rentrer et que s'il avait eu plus de présence d'esprit, il en aurait acheté une plus grande. Il est retourné dans la cave pour aller chercher sa scie à métaux et s'est mis au travail. Après avoir dit tout cela devant la famille Le Tan, Reiser éclate en sanglots. « J'ai jamais voulu faire de mal à Sophie. » Plusieurs fois durant les audiences, il change de ton. Il est à la fois détaché et investi dans son récit. Il explique en détail comment il a frotté le sol de la pièce avec de la toile émerie et de l'acétone pour ne laisser aucune trace de sang. Sur ce point, certains experts restent interrogatifs. On pense à l'utilisation d'une bâche, car il est étonnant de parvenir à faire disparaître autant de traces de sang compte tenu du massacre dans la salle de bain. La question de la présence de la bâche a toute son importance, car cela permettrait de mettre en évidence la préméditation de l'acte. Dans l'après-midi du lundi 4 juillet 2022, l'avocat général demande au juré de répondre oui à la question de la culpabilité de l'accusé. Le sort de Jean-Marc Reiser est débattu le lendemain. Aucun doute que cette mort était à la fois intentionnelle et préméditée. Et même si les preuves sont insuffisantes, compte tenu de sa récidive, l'accusé finira ses jours en prison. Jean-Marc Reiser est condamné le 5 juillet 2022 par la cour d'assises du Bas-Rhin à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il fait appel en 2023, mais la peine est confirmée.